Alors, je vous lis ce soir en Jean chapitre 14, les versets 22 à 31, à la gloire du Seigneur. Et ici, je vous invite également à ouvrir votre Bible pour que vous puissiez faire cette lecture avec moi du confort de votre demeure étant à la gloire du Seigneur. Jean chapitre 14. Les versets 22 à 31. Lisons ensemble, à micro fermé, évidemment. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent. Afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyez, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Dès le Seigneur bénir. La lecture de sa sainte et agréable parole pour l'édification de l'Église. J'ai parlé des versets 15 à 21, mercredi dernier, dans un deuxième temps. J'ai parlé mercredi dernier de la part du Seigneur à vos cœurs, des versets 15 à 21 en deuxième temps, mercredi dernier. Le premier temps de la séance de mercredi était plutôt consacré à un approfondissement de l'enseignement qui a été dispensé l'autre mercredi d'avant sur le verset 13 et 14. Je suis revenu mercredi dernier pour approfondir l'enseignement donné concernant versets 13 et verset 14. Et c'était bien après ce rappel et cet approfondissement que nous avons pu enchaîner par la suite avec les versets 15 dont je viens de parler au verset 21. Je vais simplement pour vous mettre en contexte du verset 22 à 31, je vais simplement faire une brève récapitulation de ce qui a été dit mercredi dernier, particulièrement concernant il y a les versets 15 à 21, du moins quelques versets des versets 15 à 21. Si vous m'aimiez, verset 15, gardez mes commandements. Et je vous ai fait remarquer à la lumière de ce verset que le Christ a établi un lien entre l'amour et l'obéissance. L'amour pour lui et l'obéissance de celui qui prétend avoir cet amour pour lui. Et il va redire la même chose dans un des versets que je viens de vous lire tout à l'heure. On y reviendra. Et au verset 16, il a rajouté une autre promesse à celle qu'il avait déjà faite à ses disciples dans sa démarche visant à les réconforter, à les consoler, à les fortifier, en leur disant, « Et moi, je prierai le Père » au verset 16, hein, « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Nous avons, à la lumière du verset 17, eh bien, nous avons, vous et moi, compris que ce consolateur n'est autre que le Saint-Esprit de Dieu. Et nous avions défini le terme consolateur dans le contexte que nous l'avons ici. Et le Christ promet de donner à ses disciples, eh bien, le Saint-Esprit, de leur envoyer, hein, le Saint-Esprit, afin que ce dernier, qui est un autre consolateur, puisse les instruire, les enseigner, les défendre, plaider leur cause, et les inspirer, à les fortifier, à les entraîner, etc. Et quand j'avais également fait remarquer que quand le Christ dit un autre consolateur, il veut dire un autre consolateur comme moi. Hein? Et le comme moi est sous-entendu ici. Donc, il établit l'égalité, hein, entre lui et le Saint-Esprit de Dieu. Hein? Et le Saint-Esprit de Dieu est Dieu au même titre que lui et au même titre que le Père, entre autres raisons, parce que le Christ dit ici un autre consolateur comme moi. Hein? Le comme moi est sous-entendu, mais c'est ce qu'il veut dire quand il dit un autre consolateur. Étant donné que lui a été toujours un consolateur pour eux, étant donné que même à ces heures fatidiques où il attend son arrestation, son procès puis sa mort, et à cette nuit infâme du jeudi soir qui s'en vient, du vendredi soir, il demeure, il continue d'être un consolateur pour eux. Et alors, c'est la raison pour laquelle il parle d'un autre consolateur. Et au verset 17, le Christ, en identifiant ce consolateur, dit que le monde ne peut pas le recevoir. Le monde ne peut même pas le connaître. Le monde ne peut même pas connaître ses actions, ses réalisations. Quand il est à l'œuvre, le monde ne peut pas le savoir parce que l'homme naturel ne connaît pas les choses spirituelles, ne comprend pas les choses spirituelles. Ils n'ont rien à faire aux choses spirituelles. Ça demande une régénération afin que leur cœur s'ouvre, les yeux de leur cœur s'ouvrent et qu'ils comprennent ce que Dieu fait, qui est Dieu et ce que Dieu fait. Donc, le Christ ne nous étonne pas et quand il nous dit, et quand il dit, quand nous le voyons dire à ses disciples et donc à nous, et par la suite, que le monde ne peut pas recevoir le Consolateur. Ceux qui le reçoivent, ce sont ceux qui se laissent convaincre par lui. Si le monde ne se laisse pas convaincre par lui, il ne peut pas le recevoir, il ne peut pas le connaître. Alors, c'est tout à fait normal, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, toujours le verset 17. Mais vous, vous le connaissez. Hein? Et il a touché vos cœurs, il vous a régénéré, il vous a convaincu de péché, de justice et de jugement. Alors, eh bien, vous le connaissez, et vous le recevez. Et comme nous le savons, ils le recevront effectivement à la Pentecôte, mes frères et mes sœurs. Il demeure avec vous et il sera en vous. Deux choses différentes. Que le Saint-Esprit de Dieu demeure avec nous, au milieu de nous, parmi nous, en tant qu'Église, et qu'il demeure en nous. C'est fondamental et la différence, frères et sœurs. Donc, au verset 18, par le fait même, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Je vous avais expliqué qu'il viendra à eux de différentes manières. D'abord, il est venu à eux après sa résurrection. Il est venu à eux. Donc, la promesse est accomplie dans le temps, dans le temporel, dans l'immédiat. Il viendra à eux à travers le Saint-Esprit de Dieu qu'il donnera, qu'il libérera une fois qu'il sera monté au ciel. Il viendra à eux à travers, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit et le Christ, eh bien, Là où est le Saint-Esprit, là est le Fils de Dieu, parce qu'il y a un seul Dieu en trois personnes. Et il viendra à eux ultimement, à sa seconde venue, au retour du Christ. Voyez-vous, donc, quand le Christ dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous, mais c'est fait, c'est fait, c'est en train d'être fait, et ce sera fait. Il est venu à eux, il a mangé avec eux, il les a rencontrés, il leur a parlé, il les a convaincus de sa résurrection, il est venu à eux. Et il est venu à eux quand il a livré le Saint-Esprit de Dieu à la Pentecôte, et il viendra à eux au retour du Christ. Voilà. Et encore un peu de temps, verset 19, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Ça revient au verset 18, c'est la même chose. Ils l'ont vécu, ils l'ont vu. Et voilà pour ce résumé, ce rappel de ce qui a été dit. Et maintenant, au verset 22, Jude, non pas l'Iscariote, précision entre parenthèses, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Hein? Le Jude en question n'est pas l'Iscariote, Jean le dit très clairement. Il est le fils de Jacques. Hein? Dans Matthieu chapitre 10, dans Matthieu chapitre 10, le verset 3, il est aussi appelé Thaddée. Et à ce frère Jude, il pense que Jésus parle d'une venue physique, d'un retour physique. Un retour qui serait accompli après que le Christ s'en soit allé vers son Père. Et il pense que le Christ reviendrait pour établir son royaume terrestre comme ils l'ont toujours cru. Jude n'arrive pas à comprendre le fait que Jésus pourra se faire connaître aux disciples et non au monde, et pas au monde. Il a de la difficulté à comprendre cette réalité. Alors, il pose la question à Jésus en lui disant, Seigneur, d'où viens-tu que tu te feras connaître à nous et non au monde? Parce que pour lui, Jésus ne sera pas capable de le faire parce que le monde le verra. Il viendra établir un royaume physique, alors il ne sera pas capable de se cacher du monde, de se montrer à eux et non pas au monde. Et la réponse que Jésus lui donne au verset 23, quand Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc la réponse que Jésus lui donne, sans pour s'attarder sur sa question, pour une raison que le Christ seul sait, eh bien, cette réponse signifie que Jésus ne se révélera pas à ceux qui ne l'aiment pas, à ceux qui ne le connaissent pas, à ceux qui refusent de l'aimer et de lui obéir. Et le Christ répond à la question d'une manière indirecte. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Hein? Il faut voir qu'il y a un lien entre venir à lui et se faire connaître au monde ou ne se faire pas connaître au monde. Pour une nouvelle fois, Jésus, comme il vient de le faire, j'en ai parlé dans le résumé, au verset 23 à 24 de Jean chapitre 14, le Christ établit un rapport, un lien, une relation entre le fait de lui obéir et celui de l'aimer avec sincérité de cœur. Et de plus, le Seigneur explique que Dieu le Père aimera ceux qu'il aime, lui, Jésus, ceux qui aiment Jésus. Et par ailleurs, le Christ dit que le Père viendra à ceux qui aiment Jésus. Et Jésus viendra à ceux qui l'aiment. Le Père viendra à ceux qui aiment Jésus. Donc, le Père et le Fils, le Saint-Esprit également, cela dit, par le fait même, viendront à ceux qui aiment Christ, à ceux qui aiment Jésus, et non seulement, c'est votre cas, c'est mon cas, c'est le cas de chaque enfant de Dieu, et non seulement il viendra à eux, il se fera connaître à eux, mais également, il fera sa demeure chez eux. C'est-à-dire qu'il habitera en eux, il vivra en eux. C'est comme on le disait tout à l'heure, par rapport au Saint-Esprit de Dieu. C'est la même idée qui se poursuit. Il viendra à eux, à travers le Saint-Esprit, il demeurera en eux et il sera avec eux. Jésus ne se fera pas connaître à ceux qui le rejettent. Jésus ne se fera pas connaître à ceux qui rejettent le Père. Le Père, tout comme le Fils, viendront à ceux qui les acceptent, à ceux qui reconnaissent l'œuvre, la personne du Fils. Le passage, le message de Jésus, c'est le message du Père. Personne ne peut prétendre, comme les témoins de Jéhovah, les judaïsants, les islamisants, bien les musulmans, et tant d'autres encore, personne ne peut prétendre accepter le Père en rejetant le Fils. Personne ne peut prétendre à croire au Père en refusant de croire au Fils. C'est ça la faiblesse, la limite de ces religions-là ou de ces sectes-là qui prétendent connaître Dieu, aimer Dieu, servir Dieu en rejetant le Fils de Dieu. L'Évangile selon Saint Jean, particulièrement au chapitre 14, est là pour dire à ces gens-là qu'ils font fausse route. Hein? Et ils ne sont pas dans la vérité parce que le Fils est porteur du message de Dieu. Dieu a donné le Fils pour se faire connaître au monde, pour se révéler au monde. C'est à travers le Fils, dans le Fils, par le Fils, eh bien, qu'il peut être connu, qu'il peut être reçu et qu'il peut vivre et demeurer eh bien, en celui qui prétend croire en lui. Il donne le Fils comme, eh bien, et à quoi de révélation et à pour ceux qui veulent le connaître. Et au verset 25, le Christ dit, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Durant son ministère terrestre, auprès de ses disciples en particulier, le Christ, le Seigneur Jésus, a été pour eux la source de la vérité éternelle, la source de la vérité spirituelle. Hein? C'est lui qui leur enseigna la parole de Dieu. Voilà pourquoi le Christ dit maintenant, en guise de rappel, je vous ai dit ces choses. Hein? Ces choses, c'est quoi? C'est le message du Père. C'est la volonté du Père. C'est la parole du Père. Tout ce qu'il a dit avant dans la chambre haute, je vous avais déjà dit qu'il les avait déjà dit. Il est en train de les réaffirmer, de les confirmer. Tout son enseignement, c'est la parole du Père. C'est l'amour du Père, c'est la gloire du Père, c'est la volonté du Père, c'est le projet du Père qu'il a enseigné, projet révélé depuis l'Ancien Testament jusqu'à la venue du royaume en sa personne. Alors, c'est de ça qu'il parle quand il dit, « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. » Et on s'aperçoit qu'il continue de les redire, tandis qu'il est avec eux pour une dernière fois, eh bien, dans la chambre haute. Et maintenant, le Christ en profite pour dire à ses disciples qu'il leur enverra le Saint-Esprit de Dieu qu'il a qualifié d'esprit de vérité, déjà au verset 17, pour les guider et les enseigner en plus, eh bien, de les consoler. Donc, voilà pourquoi, quand je vous ai parlé, la première fois où le Christ a révélé le don, la venue du Saint-Esprit, il a fait la promesse du Saint-Esprit, il a présenté, je vous ai parlé de consolateur. Lui-même l'appelle enseignant, lui-même l'appelle consolateur. Donc, l'Esprit a une multitude de ministères auprès de ceux, eh bien, auxquels il est destiné. Ministère de consolation, ministère de guérison, ministère d'enseignement, ministère de direction, ministère de conseil, etc. Mes frères et mes sœurs, les disciples du Seigneur réunis avec lui dans la chambre haute, en ce temps d'angoisse, en ce temps de peur, de crainte, d'inquiétude légitime, en ce temps de panique, de détresse, eh bien, ces gens-là, ces bien-aimés-là, ces frères-là, ils ont et auront encore besoin, bon, rien qu'à regarder les questions qu'ils posent, hein, rien qu'à regarder les questions qu'ils ont commencé à poser, hein, depuis le chapitre 13, hein, dans le texte sur lequel j'ai prêché la fois passée, à voir, à entendre les questions qu'ils posent. Eh bien, nous comprenons très bien, le Christ l'a compris très bien, que ces bien-aimés-là ont besoin, ils ont eu besoin, ils ont besoin et ils auront besoin d'être instruits dans la vérité des choses éternelles dans lesquelles le Christ a déjà commencé à les instruire. Hein? C'est la raison pour laquelle Jésus leur dit maintenant, mais le consolateur, Jésus connaît leurs besoins, hein? Il connaissait leurs besoins. Mais le consolateur, hein, il continue d'y aller de promesse en promesse pour les fortifier, cela dit. Il réitère la promesse de l'Esprit qu'il a déjà faite au verset 16 à 17. Vous l'aurez remarqué, cela dit. Hein. Il réitère cette promesse, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, hein, enverra en mon nom, c'est enverra de ma part. Hein, enverra en mon nom. Hein. Le Christ est venu au nom du Père. C'est-à-dire de la part du Père, eh bien le Saint-Esprit viendra au nom du Christ, c'est-à-dire de la part du Christ, et il enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Gloire à notre Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu viendra au nom de Jésus ou bien de la part de Jésus pour enseigner à ses disciples les vérités de la parole, mais également pour leur rappeler. Eh bien, ce que le Christ lui-même leur a déjà enseigné. Et quand on lit attentivement le livre des Actes, ce reportage, ce rapport que le docteur Luc nous fait sous la dictée du Saint-Esprit, on a bien remarqué que le travail a été fait. Hein. Et quand on lit les épîtres que vont rédiger et la plupart de ses frères, eh bien, nous comprenons que le travail a été fait, que le Saint-Esprit fait le travail. Quand nous regardons la portée de l'Église aujourd'hui, mais nous comprenons que le Saint-Esprit a fait le travail, il continue de faire le travail et il fera encore le travail, eh bien qu'il est appelé à faire auprès de ceux qui aiment Jésus, auprès de ceux qui aiment le Père et auprès de ceux qui aiment le Fils, auprès de ceux en qui le Père habite et par son intermédiaire. Et auprès de ceux en qui le Fils habite par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Le travail est fait, Dieu ne peut pas se tromper, il est un Dieu sage, frères et sœurs. Il y a verset 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Mais je vous laisse la paix. Je vous laisse la paix. Qui peut se targuer de laisser la paix au monde? Qui peut se targuer de donner la paix? Il y a tellement d'accords de paix qui ont été signés, qui n'ont pas été respectés. Il y en a qui ont été signés aujourd'hui, le jour et le lendemain, ils ont été rompus. Ils ont été déshonorés, les gens n'ont pas tenu leur engagement. Mais le Christ, lui, est capable de dire: je vous donne, je vous laisse la paix. Alors Jésus, qui est mort pour nos péchés, Jésus qui est mis à mort pour vous et pour moi est le seul capable de faire une telle déclaration. Je vous laisse la paix. Jésus est l'unique source de paix. La Trinité bénie, Père, Fils et Saint-Esprit de Dieu, est l'unique source de paix. Je vous laisse la paix. Une paix qui vient d'abord et avant tout de la réconciliation. Que ceux qui sont réconciliés avec Dieu, eh bien, ils peuvent avoir. Tous ceux qui sont réconciliés avec Dieu, sont en paix. Gloire à notre Dieu. Quoi qu'ils puissent voir autour d'eux, quoi qu'ils puissent entendre autour d'eux, peu importe ce avec quoi ils peuvent avoir, elles peuvent avoir à faire face, ils peuvent se targuer d'être en paix. En tout cas, d'avoir la paix. Ils sont en paix parce que la colère de Dieu ne demeure point sur eux. Depuis la naissance, chaque homme et chaque femme sont ennemis de Dieu. Vous le savez déjà. On en a parlé abondamment. Le péché originel fait qu'il en soit ainsi. Depuis la naissance. David dit, je suis né dans le péché et conçu dans l'iniquité. Okay? Nous naissons ennemis de Dieu. Chaque homme et chaque femme. Dans Genèse 8, verset 21, Dieu dit que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Cependant, ceux qui sont devenus enfants de Dieu peuvent jouir de la paix éternelle en Jésus-Christ de Nazareth, car c'est par Jésus-Christ que Dieu a choisi de réconcilier le monde avec lui-même. C'est par Jésus-Christ et dans sa mort que Dieu a choisi de se réconcilier avec ses ennemis, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. C'est en Christ, eh bien, qu'il a choisi de faire la paix par le sang de la croix. Il a choisi de faire la paix avec le monde, frères et sœurs. Incidemment, dans l'épître aux Romains, saint Paul écrira, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, Romains chapitre 5, le verset premier. Et le résultat de cette justification, le résultat de cette réconciliation, eh bien, c'est que ceux qui avaient l'affection de la chair qui produisait la mort, ont maintenant, par le sang du Christ, l'affection de l'Esprit, gloire à notre Dieu, qui produit maintenant la paix et la vie, selon Romains chapitre 8, le verset 6. La justification, la réconciliation produit la vie et elles produisent la paix dans le sang et dans la mort de Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, donné pour mourir pour l'humanité. Perdus, frères et sœurs. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, dans ce texte sur lequel on a passé un bon bout de temps, Éphésiens chapitre 6, verset 12 à continuer, mais plus particulièrement au chapitre 6, le verset 15, saint Paul qualifiera l'évangile de l'évangile de paix. Quand il dit, prenez la chaussure du zèle de l'évangile de paix. L'évangile, c'est un message de paix. L'évangile, c'est une réalité de paix. À notre Dieu. Car il s'agit de la bonne nouvelle qui annonce que les pécheurs impies peuvent faire la paix avec Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ de Nazareth. Et l'apôtre Paul va dire de la paix que le Christ nous dit qu'il nous laisse. Paul dira de cette paix qu'elle est la paix de Dieu. C'est la paix du Christ, c'est la paix de Dieu. Et Paul de rajouter cette paix de Dieu. C'est une paix qui surpasse toute intelligence. C'est-à-dire que la compréhension humaine ne peut pas comprendre, ne peut pas expliquer, ne peut pas saisir la profondeur de cette paix que Jésus de Nazareth nous laisse, frères et sœurs, mes bien-aimés, parmi les multiples promesses que le Fils de Dieu a faites à ses disciples dans la chambre haute, il y en a une qui m'accroche en premier, frères et sœurs, c'est le don du Saint-Esprit de Dieu et la promesse de la paix. Je vous laisse ma paix. Paul dit que cette paix que le Christ nous laisse gardera nos cœurs, mon cœur, vos cœurs, gardera mes pensées, vos pensées, nos pensées, hein, en Jésus-Christ. Gardez les cœurs et les pensées. Le terme garder, c'est un terme qui est utilisé dans le langage militaire de l'époque, hein. Garder, ça veut dire surveiller. Garder, ça veut dire protéger. La paix que le Christ dit qu'il laisse à ses disciples en Jean chapitre 14 et à vous et à moi en Jean 14 verset 27, eh bien, c'est une paix qui fait office de surveillance, de gardien, eh bien, de notre pensée, de notre cœur, à l'abri des inquiétudes, des turpitudes de la vie, frères et sœurs. La paix de Dieu protège les enfants de Dieu contre les angoisses de la vie. La paix de Dieu protège les enfants de Dieu, garde les enfants de Dieu, garde leur cœur, leurs pensées contre les doutes de la vie. La paix de Dieu garde les cœurs, les pensées, les esprits des enfants de Dieu, des craintes et des détresses de la vie, frères et sœurs. C'est une paix active, c'est une paix agissante, gloire à notre Dieu. C'est-à-dire que cette paix n'est pas affectée, la paix que le Christ dit à ses disciples, qui leur laisse en disant, je vous laisse la paix en Jean 14, le verset A. C'est une paix, frères et sœurs, qui n'est pas affectée par les circonstances difficiles de la vie. Au contraire, cette paix triomphe des turpitudes de la vie, des épreuves de la vie, des circonstances difficiles de la vie, car la paix de Dieu change la tristesse en joie, gloire à notre Dieu. La paix de Dieu change la crainte en courage. Et la paix de Dieu change le doute en assurance. Gloire à notre Dieu. Voilà le style de paix. Voilà l'espèce de paix. Voilà la sorte de paix. Voilà la qualité de paix, le genre de paix que le Christ promet à ses disciples, frères et sœurs, tandis qu'il est à quelques heures, eh bien, de se faire arrêter par les bandits, par les bourreaux, frères et sœurs, avant d'être crucifiés à la croix du calvaire infâme à Golgotha. Voilà cette paix qu'il nous laisse également à vous et à moi. Et je vous donne ma paix. Jésus appelle cette paix ma paix. C'est sa paix. C'est la paix que lui donne. Il s'agit de la même paix qui lui a permis de garder son sang-froid devant les moqueries des hommes. C'est la même paix que le Christ nous donne. Cette paix qui est sa paix. La paix qu'il a animée. La paix qu'il a habitée. La paix, frères et sœurs, mes bien-aimés, qui lui a permis de tenir ferme devant les mépris et les hostilités de ses bourreaux, de ses détracteurs, de la haine, de la violence, de la trahison, de la mort. C'est cette paix, la paix qui l'a caractérisé, qui a caractérisé son ministère. C'est cette paix qu'il vous laisse. Rendons gloire à notre Dieu qui nous a laissé une telle paix. Sans cette paix, allez qu'il est, moi avec vous, nous va côté nous tailler Montréal. Sans cette paix, frères et sœurs, mes bien-aimés, nous va connaître qui j'en s'attaille pour qualité tant difficile, qualité tempête, eh bien, qu'il peut nous arriver d'avoir à faire face dans la vie. La paix de Jésus procure à l'Église du Seigneur, aux enfants de Dieu, aux hommes et aux femmes qui aiment le Seigneur, qui ont donné leur vie à Christ, une sérénité, un calme, gloire à notre Dieu, une liberté réelle par rapport aux inquiétudes et aux angoisses. Que même les pures situations de la vie, que même les pures circonstances de la vie ne peuvent détruire, ne peuvent anéantir, frères et sœurs. Ainsi, au milieu des épreuves et des tentations de la vie, au milieu des tracas, au milieu des difficultés de la vie, frères et sœurs, les enfants de Dieu ont besoin de continuer de fixer leur regard sur Jésus de Nazareth, lui qui a suscité la foi en nous et mène cette foi à la perfection en échange de la joie qui lui était réservée et qui a souffert à la croix, qui a été méprisé, qui a méprisé l'ignominie, et Dieu merci, qui s'est assis maintenant et pour toujours à la droite du trône de Dieu. Hébreux chapitre 12, verset 2, frères et sœurs. Autrement dit, cette paix que Jésus nous laisse, c'est en se tournant vers lui constamment dans la vie de tous les jours, à chaque instant, dans la prière, dans l'adoration. Ah, en cherchant sa face, qu'on peut jouir de cette paix, cela dit. La paix est donnée, c'est comme un chèque, mais c'est à nous de le changer, de le négocier en banque. Sinon, chèque là, la caille là, nous ne pouvons pas jouer chèque là, nous ne pouvons pas faire rien avec. Cette paix est donnée, mais c'est à nous de nous approprier cette paix en vivant dans la sanctification, en vivant dans la sainteté, en vivant dans la parole, en vivant dans la prière, en vivant dans l'harmonie, en vivant dans l'amour. C'est comme ça qu'on va jouir de cette paix que le Christ nous laisse, frères et sœurs. Je ne vous donne pas comme le monde donne, toujours 14, 27, mais cette fois-ci, 27c. Le monde prétend offrir une expérience de paix et de tranquillité, de calme, de sérénité. C'est ce que le monde prétend. Le Christ dit, je ne vous donne pas comme le monde donne. Comment le monde donne la paix? Comment le monde donne la paix? J'ai dit quelques jours, quand on a parlé, le monde donne la paix en signant des traités de paix. Le monde donne la paix en s'assurant que les hôpitaux fonctionnent, que les universités fonctionnent, que les écoles fonctionnent. Le monde donne la paix en s'assurant qu'il y a moins d'inégalités possibles dans les sociétés entre riches et pauvres. C'est comme ça le monde donne la paix. Le monde donne la paix en s'assurant que tout le monde a mangé 3 fois par jour. C'est la conception du monde de la paix. C'est pas faux. C'est pas tout à fait faux. C'est pas tout à fait faux, cela dit, OK? Sauf que Jésus donne plus que cela. Sauf que ça reste une manière différente de donner la paix. Le monde donne la paix à travers le matérialisme. Le monde donne la paix à travers l'amour. L'amour entre guillemets. Le monde donne la paix à travers la romance. Le monde donne la paix à travers la toxicomanie, à travers la drogue. Le monde donne la paix à travers l'alcoolisme. Le monde donne la paix à travers les sectes, à travers les fausses religions. Le monde donne la paix à travers la sexualité débridée. Mais c'est ça. Le Christ dit, moi, ce n'est pas comme ça que je vous donne la paix. Puisque cette paix et sa source ne mènent pas loin. L'enseignement biblique nous dit que cette paix-là, que le monde donne et la manière dont le monde le donne, ne mène pas loin. La Bible enseigne à répétition que la paix du monde est insuffisante. Il n'y a rien de mal à s'assurer qu'il y a moins d'inégalités possibles entre les gens pour s'assurer d'une certaine paix. C'est vrai. Ça se fait. C'est bien. Éduquer les gens pour amener plus de paix, c'est bien. Mais l'évidence est là à l'effet que ça ne suffit pas. L'humanité a compté au moins 4 millions de guerres. L'humanité a compté au moins 4 millions de paix, de guerres. Sur environ presque la même quantité de traités de paix signés. Il y a des gens qui sont riches, qui ne sont pas en paix. Il y a des gens qui peuvent se tout procurer, qui ne sont pas en paix. La Bible enseigne que la paix du monde est inadéquate, est insuffisante. Ésaïe a dit en 48, verset 22, il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. En d'autres termes,
En d'autres termes, je buvais une gorgée. En d'autres termes, seuls ceux qui connaissent Jésus-Christ, seuls ceux qui aiment Jésus-Christ et que Jésus-Christ aime, seuls ceux qui sont convaincus de péché, de justice et de jugement peuvent être en paix. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà en paix avec Dieu. Tant que l'humanité n'est pas en paix avec Dieu, il n'y a pas de paix pour l'humanité. Tant qu'une personne n'est pas en paix avec Dieu, il n'y a pas de paix pour lui. Il y a des moments de joie, de rire, de sourire, pourquoi pas. Il y a ce qu'on appelle la grâce commune de Dieu. Mais la paix véritable vient d'abord de la paix avec Dieu. La paix avec soi-même, la paix avec les autres, la paix en soi-même passe inévitablement par la paix avec Jésus-Christ, le prince de paix. Gloire à notre Dieu. Et alors, que votre cœur ne se trouble pas, on est au verset 27b, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point, gloire à notre Dieu. Le Christ vient de promettre d'accorder la paix à ses disciples et maintenant il réitère, il redit, il rappelle son commandement à l'effet que le cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Avec la paix que je te donne, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, de s'alarmer. Il n'y a pas lieu de se troubler, de se laisser troubler ou distraire par qui ou quoi que ce soit, ni quoi que ce soit. Voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure que la paix est donnée, mais c'est à l'enfant de Dieu de s'en approprier, de la saisir, d'en jouir. La paix est déposée en toi parce que le Saint-Esprit de Dieu est un agent ultime de paix. Tu es réconcilié avec Dieu, mais ça se peut que tu ne sois pas en paix. Si tu ne prends pas cette paix-là, tu ne l'auras pas. Elle est donnée, mais il faut que tu la prennes. Les enfants de Dieu ont la responsabilité de s'approprier la promesse de paix que Jésus a faite. Et comment on y parvient? Comment on arrive à s'approprier, je peux aller de l'attachement à Dieu, à sa parole, d'une vie dans la sainteté, dans la sanctification, bien entendu, mais on s'approprie également par la confiance. Croire en ce que Dieu dit, croire en ses promesses. S'il promet que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, faut que tu le croies pour que tu sois en paix. S'il promet qu'aucun malheur ne s'approchera de ta tente. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Il faut que tu le croies pour que tu sois pas en paix, pour que tu sois en paix. S'il dit dans sa parole, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lion sur le dragon, puisque tu l'aimes, il te délivrera, il te rassasira de longs jours. Il faut que tu le croies pour que tu sois en paix. Approprie-toi ses promesses. Tant que son monde qui dit, c'est comme ma vine koto là, ma pote 20 dollars pour vous. Quoi ça, tant que son monde qui te parle avec vous, moi aux États-Unis, je vais acheter un cadeau pour vous. C'est là que ça va prendre paix. Et c'est là que ça va pour qu'il y ait une promesse pour pas en paix. Si vous ne saisissez pas, vous ne pas d'huile. Lorsque nous nous confions en la bonté du Sauveur, du Seigneur, lorsque nous croyons en ses promesses, lorsque nous croyons à sa générosité, à son amour, à sa fidélité, nous nous saisissons, nous nous approprions de la paix qu'il nous donne, de la paix qu'il nous promet. Et alors, nous nous saisissons de sa joie dans la foi, selon Romains 15, verset 13. Cela dit l'oratoire, peuple du Seigneur, chers amis internautes, le fait d'être angoissé par rapport au passé n'a pas sa place dans la vie chrétienne. Le passé, c'est du passé. Parfois, nos passés viennent nous hanter. Nous t'en en paix, nous t'as dormi jour que les jours dans la grâce du Seigneur, dans la prière, la méditation. Mais on vit bagaille passé depuis 20 ans, depuis 10 ans, à hanter nous, vienne nuit à la paix nous. Nous ne pouvons pas comprendre qu'avec Dieu, quand c'est fini. Quand c'est passé. Nous faisons souvent comme David. J'ai péché, j'ai péché, j'ai péché. Mais une fois que le péché a été confessé, il est pardonné, c'est fini. Peu importe l'ampleur du péché. Le fait d'angoisser par rapport au passé, le fait de s'inquiéter du présent, Le fait d'avoir peur de l'avenir, c'est des moyens de ne pas s'approprier de la paix que Dieu nous donne. Nous devons être actifs, nous devons être proactifs dans cette affaire de saisir la paix que Dieu nous donne, de jouir de la paix que Dieu nous donne, d'appréhender la paix que Dieu nous donne. Ce n'est pas dans l'inaction qu'on va s'approprier cette paix-là, ni qu'on va jouir de cette paix-là. C'est dans l'action. Croire, c'est agir. La foi, c'est l'action. Nous devons savoir que les promesses que Dieu nous fait dans sa parole, c'est des promesses certaines et véritables. Elles s'accompliront certainement. C'est ce même genre d'exhortation que l'apôtre Paul donne aux frères et sœurs de Philippe en Philippiens 4, verset 6 à 7, quand il leur dit, ne vous inquiétez de rien. Ah, mais c'est ça. Appropriez-vous de la paix que vous avez. Appropriez-vous de votre paix. C'est ça que ça veut dire. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, voyez-vous. Croire en la bonté et à la générosité du Seigneur, ce que je viens de vous dire, par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Pour une conclusion, et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voilà pourquoi je vous parle d'activité, d'action. Dans le sermon sur la montagne, le Christ dira à peu près la même chose. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, de votre santé, de vos enfants, de votre petite. Bon Dieu, dégagez-la avec vous. Car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Voilà comment on parvient à se saisir, à jouir de cette paix que le Christ nous donne pour nous promet, frères et sœurs. Dieu nous a pardonné les choses passées. Dieu nous procure le nécessaire pour le présent. Dieu nous garantit notre avenir. Croyons cela. Croyons que Dieu nous a pardonné les choses passées, les péchés passés, les rébellions passées. Croyons cela. Ne nous laissons pas distraire par les choses passées. Croyons que Dieu nous a pardonné les choses passées. Croyons que Dieu nous procure maintenant, pendant que m'a parlé là, il est en train de nous procurer les choses nécessaires pour le présent. Et croyons qu'il est le garant de notre avenir. Dieu est garant de l'avenir de ceux qu'il aime. Dieu est garant de l'avenir de ceux qui croient à la mort, à la résurrection du Fils de Dieu. Dieu est le garant de votre futur de votre église, du futur de votre famille. Dieu est le garant du futur de vos enfants. Dieu est le garant du futur de votre carrière. Dieu est le garant du futur de votre retraite. Dieu est le garant de votre futur jusque dans l'éternité. Réjouissez-vous. Et jouissez de la paix que Dieu vous donne. Sur le lit d'hôpital, Dieu est le garant de votre paix, frères et sœurs. Il veut s'assurer que rien ne perturbe votre paix qu'il vous a donnée en Jésus-Christ, frères et sœurs. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il appartient à chaque enfant de Dieu, à chaque homme, à chaque femme, à chaque église, à chaque groupe spirituel, groupe d'hommes, groupe femmes, de s'approprier de la paix de Dieu. L'apôtre Paul nous partage une stratégie pour arriver quand il écrit aux croyants de Corinthe. Nous sommes pressés de toute manière. Regardons-moi. Nous sommes pressés de toute manière. Mais ce qu'il y a pour approprier de la paix, on va le finir là, OK? Oh, non, non. Il est moins 5. Je préfère m'arrêter ici plutôt que de continuer. Comme ça, je vous laisse la place pour poser vos questions. Alors, j'arrête l'enregistrement et avant que je vous revienne pour clore et vous laisser la place pour intervenir le cas échéant.